Bienvenue sur cette antenne. Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste qui vous propose aujourd'hui La Voix de l'Espérance, une émission qui vous est présentée par Oscar Miani. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur notre antenne. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur cette antenne ou aussi en podcast sur www.awr.org ou aussi avec votre téléphone, et d'ailleurs je vous donnerai les numéros un peu plus tard. Aujourd'hui au programme, eh bien, Parole solidaire, un moment d'information humanitaire, et ensuite, pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Je suis heureux de vous retrouver pour Parole solidaire, notre rendez-vous sur les solidarités internationales. Et aujourd'hui, eh bien, je reçois Tessie Fernoc. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de projets internationaux chez ADRA France et vous nous parlerez de Gaza. Alors, inutile de rappeler qu'un conflit fait rage depuis octobre 2023 en Israël, entre Israël et Gaza. Les médias en parlent constamment, hein. Par contre, vous pouvez sans doute nous rappeler dans quelles conditions aujourd'hui la population se trouve à Gaza.
Oui, tout à fait. Alors, le conflit armé qui a lieu à Gaza a considérablement accru les besoins humanitaires parce qu'il y a des souffrances insondables qui sont causées aux populations locales. Il y a 2 millions d'habitants à Gaza, on en compte en tout cas 2 millions, et on compte que 1,7 million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays. Ces personnes doivent donc quitter leur logement, leurs habitats, et sont parfois victimes de multiples déplacements. Elles ne se déplacent souvent pas qu'une fois. Donc, en plus de cette grande précarité qui est due au déplacement, on constate qu'il y a une grande pénurie des ressources essentielles, et notamment l'eau et la nourriture. Toutes ces conditions ont vraiment aggravé les conditions de vie qui étaient déjà précaires des populations gazaouies. Et aujourd'hui, on considère que la population de Gaza représente 80% de toutes les personnes confrontées à la famine ou à la faim catastrophique dans le monde, et que 26% de la population souffre de famine et 90% est en situation d'insécurité alimentaire.
Donc la situation est catastrophique, on peut le dire.
Oui, on peut le dire.
Mmh. Comment s'organisent les interventions humanitaires sur place avec les associations notamment ?
Alors il faut savoir que dans le cadre de Gaza, parce que le conflit armé est particulièrement complexe, l'aide humanitaire est très très restreinte. Donc on a déjà une pénurie sur place des ressources essentielles, mais en plus de ça l'aide humanitaire est très restreinte. Et donc finalement l'aide humanitaire qui est minime est souvent le principal, si ce n'est le seul moyen de subsistance des populations sur le terrain.
Est-ce que vous pouvez nous dire si ADRA France a une action, ou ADRA, de manière générale, a une action justement sur ce territoire ?
Oui, alors pour répondre à cette question, je tiens d'abord à préciser que le conflit israélo-palestinien est très complexe,
oui,
et que ADRA ne prend pas du tout position sur la question, mais tient simplement à aider les populations qui sont affectées, les populations civiles qui sont affectées par ce conflit armé, sans distinction d'appartenance ethnique, religieuse ou quelle qu'elle soit. Donc oui, ADRA...
C'est bien de le rappeler.
Oui, c'est important, surtout vu la situation. Mais donc ADRA a tenu à être présente sur le terrain. Donc ADRA a organisé un projet d'un mois d'aide alimentaire.
Un mois d'aide alimentaire. Alors la première question qui vient, c'est pourquoi un mois seulement ?
Alors, encore une fois, le conflit israélo-palestinien est très très complexe et a des implications politiques qui dépassent largement la compétence des organisations humanitaires comme ADRA. Donc dans ce cadre, il n'était pas possible d'envisager une action humanitaire prolongée pour une première fois. C'est pour cette raison qu'on a essayé en fait une action d'un mois, tout simplement en raison du contexte.
Et donc ça rejoint ce que vous disiez juste avant, que les interventions humanitaires étaient très compliquées.
Oui, 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 très très compliquées.
Et alors, dites-nous comment ça s'est passé, ce mois d'aide.
Oui, alors ce mois d'aide avait pour but de fournir 28 570 repas chauds et de distribuer 7 732 colis alimentaires. Donc on estimait qu'on avait au minimum 7 332 bénéficiaires, mais on voit bien qu'avec le nombre de repas chauds distribués et le nombre aussi de familles qu'il peut y avoir, on est à bien plus de bénéficiaires que cela pour un mois, ce qui est assez impressionnant quand même, vu la durée du projet. C'est un projet par contre qui a un coût quand même important vu sa durée, puisqu'il est de 100 000 $, donc soit environ 90 000 euros. Mais il faut compter en fait que le coût pour un repas chaud est de 2,80 $, et que pour créer un colis alimentaire avec les denrées du marché local, qui sont assez rares et donc du coup qui ont un prix d'or, il faut environ 60 $. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les dépenses annexes, d'envoi, de personnel, etc.
Donc voilà, cette action s'est déroulée de quelle manière ? Vous pouvez nous expliquer aussi tout ça ?
Oui, alors ADRA n'a pas de bureau à Gaza. On a des bureaux dans des pays qui sont proches, mais on n'a pas de bureau à Gaza. Donc ADRA a décidé, pour une première et dans un contexte aussi compliqué, de travailler avec une association qui travaillait déjà à Gaza. Donc ADRA s'est principalement chargée de la collecte de fonds, mais aussi de la création, de la structuration du projet. Et le projet a été mis en place, en œuvre, par une association directe qui travaillait déjà sur place.
Et donc le travail d'ADRA a été essentiellement de collecter des fonds.
Oui, collecte de fonds et quand même construction du projet aussi. Donc même si ADRA n'a pas pu aller sur place en raison du contexte, le projet a été quand même particulièrement suivi par ADRA, particulièrement négocié et construit aussi par ADRA.
Et alors vous nous disiez que c'était un mois test. Est-ce que ça veut dire que donc il y a d'autres actions qui vont être entreprises ?
Alors il y a des négociations qui sont en cours avec des associations qui travaillent aussi sur le terrain. Maintenant on peut pas garantir qu'il y aura de nouvelles actions, mais le travail en collaboration, en partenariat avec des associations qui sont déjà sur place est quand même satisfaisant. Donc on espère pouvoir mettre en place de nouveaux projets, mais on ne peut pas le garantir vu le contexte et vu les difficultés que les acteurs humanitaires rencontrent à Gaza.
Alors vous dites satisfaisant et on pourrait dire même indispensable, cette collaboration avec d'autres acteurs sur place.
Oui, oui, indispensable parce que ADRA ne pourrait pas agir seul dans un contexte aussi complexe et aussi inconnu aussi.
Et alors, pour mettre en place de futures potentielles actions, vous avez besoin, il est nécessaire de faire appel à la générosité des auditeurs là qui nous écoutent en ce moment.
Oui, tout à fait. Alors, je tiens à dire que ce projet est terminé, mais les urgences ne le sont pas, et notamment au Moyen-Orient. ADRA France a constamment besoin de fonds pour soutenir des actions d'urgence. Je ne peux pas garantir aujourd'hui qu'on va soutenir une nouvelle action à Gaza, mais on a déjà soutenu deux actions au Liban avec ADRA pour ce même conflit, et bien sûr nous sommes intervenus sur plusieurs urgences dans le monde entier. Donc nous avons constamment besoin d'aide pour les réponses aux urgences, et c'est pour ça que nos auditeurs sont intéressés à soutenir ADRA dans cette action, n'hésitez pas à aller sur le site d'ADRA.fr, et si les réponses d'urgence vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas à sélectionner cette possibilité sur Helloasso.
Donc en fait, on va sur le site internet d'ADRA et on peut vraiment sélectionner la raison pour laquelle on
c'est
fait
ça.
Un don.
C'est ça. Au niveau de l'onglet « Je soutiens », ça ouvre une page Helloasso et après, il y a la possibilité de choisir le fonds auquel on affecte le projet, les fonds.
Et là, pour ce cas de figure, c'est les projets d'urgence.
Oui, c'est bien ça, les réponses aux urgences, oui.
Voilà, donc voilà, l'appel est lancé aux auditeurs. C'était Parole solidaire, une émission qui est consacrée aux solidarités internationales. Et nous étions aujourd'hui en compagnie de Tessie Fernoc, chargée de projets internationaux chez ADRA France. Merci beaucoup Tessie.
Merci à vous.
Et à très vite.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Is Adventist World Radio, the voice of hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste, AWR, et ici c'est la Voix de l'Espérance en compagnie d'Oscar Miani. Si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez rentrer en contact avec nos intervenants et leur adresser des questions. Pour cela, vous pouvez adresser vos mails à france@awr.org. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans l'émission C'est vous l'histoire.
C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire. Votre histoire. Votre histoire compte.
Nous avons eu le plaisir d'avoir le label Entreprise innovante décerné par la Chambre de commerce de Lyon, qui est un label européen. Et le label entreprise durable et équitable, qui est décerné par la ville de Lyon pour notre engagement à choisir aussi bien des matériaux achetés localement, à payer correctement les collaborateurs, à avoir une démarche green, c'est-à-dire dans le choix des peintures, des matériaux du local, avoir des matériaux durables, et puis toute la partie développement du service, puisqu'on se déplace gratuitement et notamment auprès des anciens. Donc je dirais qu'il y a une cohérence dans le concept, dans lequel, en fait, on peut retrouver bon nombre des valeurs chrétiennes.
Dans C'est vous l'histoire aujourd'hui, on parle commerce équitable, mais dans un domaine original, vos lunettes. Pour y voir plus clair, notre journaliste François Sergi a rencontré Audrey Cato, directrice de KLS, Connexion Lunettes Solidaires. Aujourd'hui, 9 montures sur 10 vendues en France sont fabriquées en Asie. C'est dire si le secteur de la lunette souffre de la délocalisation. Audrey Cato nous prouve que ce processus n'a rien d'irréversible. Notre invitée est également chrétienne engagée et nous l'avons rencontrée dans les locaux de son entreprise à Lyon.
Pourquoi cet intérêt pour les lunettes ?
Ah, c'est une belle histoire. Je dirais qu'il y a des moments dans la vie où on se retrouve un peu à des carrefours de vie et on se remet en question. Il y a quelques années, après un parcours d'une dizaine d'années en tant que commercial, puis ensuite dans le marketing et la communication pour un célèbre groupe de vêtements pour enfants, j'ai fait une petite pause maternité et nous avons eu 4 enfants très rapprochés. Et puis du coup, à l'issue de cette petite pause, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et donc, ça a été un moment d'introspection, de prière aussi, puisque j'étais revenue à la foi réellement quelques années auparavant, et de comprendre en fait quel était le chemin que Dieu avait placé devant moi, en fonction des talents qu'il m'avait donnés, des différentes expériences et des objectifs que j'avais. Je savais ce que je ne voulais plus. Je commençais à savoir, je cherchais un projet qui avait du sens, et je voulais travailler pour un produit qui soit utile, qui puisse réellement répondre à un besoin d'une part et être proposé à un prix juste et dans une relation authentique aux autres. Et à cette époque-là, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec un ami qui fabrique des machines-outils pour lunetiers. Donc des machines qui permettent de découper des plaques d'acétate, donc de plastique, de matière plastique, dans laquelle on fabrique les lunettes. Et il m'a emmené tourner dans différentes usines en France. Et là, ça a été un vrai coup de foudre. J'ai découvert un savoir-faire extraordinaire, ancestral, hein, qui se transmet de génération en génération, des façonniers passionnés. Et en même temps, un très fort contraste, puisque une très grosse pression de délocalisation, des usines qui ferment, des emplois qui sont perdus.
C'est quelle région où on fabrique les lunettes, essentiellement ?
Alors, beaucoup autour de Moret, donc dans le Jura, et également autour d'Oyonnax dans l'Ain, donc qui sont, on va dire, les deux grosses capitales en France. Voilà, il faut savoir qu'il y a encore une dizaine d'années, il y avait plus de 10 000 emplois, il en reste moins de 1 000 aujourd'hui, donc il y a une très forte délocalisation. Donc je suis tombée clairement amoureuse de ce métier, de ces produits. Et puis j'ai essayé de comprendre donc pourquoi, malgré ce savoir-faire, on fermait des usines. Et en discutant avec les directeurs d'usines, ils m'ont expliqué que certes, il y a des coûts de production en France importants, plus importants que les produits chinois. Mais en fait, au-delà de ça, c'était le nombre d'intermédiaires entre le fabricant et le client final, puisqu'il y a une centrale d'achat, un distributeur, un grossiste, un VRP, une marque, un designer, qui renchérissait considérablement le coût du produit. Et c'est là que j'ai eu l'idée, en fait, de mettre en place un réseau direct. Et pourquoi pas dans la lunette ? Ça se fait bien dans l'alimentation, on va acheter son panier de légumes directement chez le producteur, et pourquoi pas dans la lunette ? Donc j'avais accès à l'outil de production, à l'usine, J'avais une expérience de la mode, puisque en ayant travaillé chez Dupareil même, j'avais travaillé des collections de vêtements colorés. Et donc, j'ai appliqué ces techniques à la lunette en créant des lunettes colorées, complètement personnalisables, en les produisant sur place et en les distribuant directement sans intermédiaire, ce qui permet d'avoir un prix compétitif.
On l'a dit, notre invitée est une chrétienne engagée. Du reste, les chrétiens auraient leur rôle à jouer dans le commerce équitable.
Dans le milieu de l'entreprise et dans le business en général, les chrétiens ont un rôle important à jouer pour proposer des produits qui répondent vraiment à des besoins. Et là, dans la lunette, c'est une personne sur deux en Europe qui en porte, donc clairement, il y a un besoin. Et en même temps, il y a une vraie problématique de pouvoir d'achat, puisque c'est un équipement très onéreux et que l'on garde sur plusieurs années. Ça me paraît important de proposer un produit à un prix juste, c'est-à-dire sans compromis non plus sur la qualité. On paye correctement le fabricant, on paye correctement les collaborateurs qui vont présenter les produits, mais on fait de toutes petites marges. Voilà. Et on compte sur la parabole de la multiplication des poissons qui pourraient être réinventés actuellement avec en fait toutes les techniques de bouche à oreille, également de réseau qui existent pour ensuite se faire connaître.
Parce qu'en plus, il faut dire que KLS Lunettes Solidaire, vous aidez aussi d'autres personnes, c'est ça, sur le prix de...
Tout à fait. Ça m'apparaît être un engagement important aussi pour un chef d'entreprise chrétien. On produit une valeur ajoutée, puisque on fabrique et on vend un produit. Mais ensuite, on a le devoir de partager. Donc, on a partagé donc avec les collaborateurs, avec les fournisseurs, mais également avec des associations, parce que aujourd'hui, on doit s'impliquer directement sur nos territoires. Pour chaque paire de lunettes vendues, on fait un don d'un montant de 10 euros. C'est important, hein, en termes de marge pour nous. Ce montant est affecté à un projet que va pouvoir choisir le client. Donc, nous avons réalisé, par exemple, avec l'ONG Le Sel, une grosse opération au Sahel.
Service d'entraide et de liaison.
Voilà, tout à fait. Et une opération un petit peu rigolote, puisque pour chaque paire de lunettes vendues, nous avons financé une poule qui est partie avec toute son alimentation au Sahel pour aider en fait une famille en difficulté qui, en contrepartie, acceptait de scolariser un enfant dans une des structures de l'ONG. Donc il y avait un échange et non pas uniquement un assistanat. Et ce type de projet de solidarité, de proximité, nous souhaitons le mettre en place systématiquement. Voilà, avec également des parrainages d'enfants dans les hôpitaux et puis toute autre initiative que peuvent porter nos clients.
Ce sont vos convictions évangéliques, c'est ça qui motive l'incarnation de ce projet?
Oui, alors dans la notion d'évangélique, j'entends le mot évangile, et dans le mot évangile, on entend le mot bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, c'est la notion aussi du partage, donc de partager ce que Dieu nous donne, et puis par notre façon de travailler, d'être vraiment co-acteur avec lui de la création, c'est-à-dire par chaque acte que l'on pose, on se pose la question du développement de l'autre. Donc comment, dans mes paroles, dans mes gestes au quotidien, je vais aider mes collaborateurs à grandir? Comment, dans ma relation avec mes clients, je vais prendre le temps d'être authentique, disponible, souriante, serviable pour manifester cette vie qui est en moi? Et donc, la solidarité, elle se manifeste au quotidien.
Des lunettes créatives, vous faites preuve de créativité. On terminera là-dessus et c'est pas la moindre des choses. Vous m'avez montré des exemplaires. C'est des petites œuvres d'art, on peut dire ça.
Oui, alors c'est même plus loin, c'est-à-dire qu'on rend les clients créateurs eux-mêmes de leurs lunettes.
Oui, parce qu'ils participent, c'est
exactement
ça, vous les faites participer.
Donc nous avons conçu en fait des lunettes modulables. Donc vous choisissez la forme qui vous plaît. On vous explique en fonction de votre visage ce qui vous conviendra. Ensuite, la couleur, il y a à chaque fois une vingtaine de couleurs. Et ensuite, les branches. Et on fait des collages de tissus dans les branches. Donc, on a des combinaisons avec des petites fleurs, avec du jean, avec des rayures, avec des pois. En fait, énormément de créativité et un prix unique. Et ça me semblait important de maintenir un prix unique et un prix compétitif pour que chacun puisse se faire plaisir, parce que la lunette, ça doit être aussi un accessoire de mode et pas uniquement une contrainte. Et je pense que c'est aussi important dans le témoignage de porter sur soi quelque chose qui rayonne de ce que l'on peut avoir en soi.
Porter des lunettes, on est malade. Enfin, je veux dire, c'est un handicap très léger, mais quand même. Et de transformer ça en quelque chose de beau et de bon pour les autres.
Voilà, beaucoup de choses passent par le regard. Hein. Je pense que le regard que l'on pose sur les autres peuvent les transformer. Et quand on voit quelqu'un dans la rue qui a une belle paire de lunettes avec un peu de couleur, on se dit tiens, ça doit être une personne sympathique. Et parfois, on a envie de rencontrer ces personnes-là. Et on a à cœur, nous, de pouvoir ainsi ouvrir des dialogues, bien sûr, sur notre métier d'opticien, avec des clients qui ont des besoins, mais au-delà, dans toute notre activité, justement, où on se déplace hors du magasin, puisqu'on a une activité également à domicile, dans les comités d'entreprise, dans les maisons de retraite. Souvent, ça ouvre des portes de dialogue magnifiques sur des sujets profonds, parfois. Voilà, donner de nouvelles raisons d'être aujourd'hui.
Allez hop, je remonte mes lunettes qui me glissent sur le nez. Il est temps de se dire au revoir. Mais avant cela, saluons encore les efforts de ces entrepreneurs animés par des valeurs chrétiennes qui agissent pour le bien commun. Audrey Cato n'est pas la seule que nous ayons rencontrée. Mais oui, souvenez-vous des émissions consacrées aux chefs d'entreprise, d'acteurs économiques, les Berbera, les Lamblais et autres Morans pour ne citer qu'eux, dont vous pouvez bien sûr retrouver l'histoire sur notre site. Des exemples à imiter, non? Allez, au revoir et à bientôt dans C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil.
Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Alors, si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org pour la réécoute des podcasts. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Si vous voulez le faire depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Et si vous voulez le faire en dehors de France, eh bien vous faites le 00 33 1 80 14 44 77. Et si vous voulez le faire depuis les États-Unis, eh bien, il y a un numéro spécial qui est le 1-712-432-9978. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste, AWR, pour votre émission en français, La Voix de l'Espérance. Et vous étiez pour cela en compagnie d'Oscar Miani. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour votre nouveau programme. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Prenez bien soin de vous.